history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour peuple de Prune et bonne année 2023.
On vous souhaite tout plein de belles choses et de vous enjailler toujours plus sur les ondes pruniennes. 2023, ça rime avec droit et chocolat, donc je pense qu'on va se faire une petite révolution écolo-marxisto-féministo-wokiste et que je vais ouvrir une chocolaterie cette année. Et toi, tu nous souhaites quoi pour cette nouvelle année, Enora ?
2023, ça rime aussi avec coupons la tête du roi. Alors je vous souhaite de bien continuer à vous organiser et surtout de prendre des forces, car vu le discours de vœux servi par notre président bien-aimé, on n'est pas au bout de nos peines. Ça m'a donné envie de la jouer façon Dolorès Ombrage et de lui tatouer « Je ne dois pas dire de mensonges sur le front ». Peut-être qu'il aura enfin un peu honte en se regardant dans une glace.
Aujourd'hui, on espère que vous êtes déter. On va parler squat et lieu de lutte dans des canapés réquisitionnés. Non, on ne va pas parler développé couché et série de pompes. Désolée, je devais faire vraiment cette blague vaseuse. Et déjà parce qu'il n'y en a qu'une sur nous deux qui peut parader avec ses biceps. Et puis surtout parce que ce n'est pas du tout le sujet.
Aussi, ça peut si tu veux prendre 2-3 minutes pour faire l'éloge de ma musculature. Ça ne me dérange pas.
Si quand on vous parle de squat, vous pensez droit au logement, réquisition, solidarité, lutte et construction de lieux politiques, vous êtes au bon endroit.
Et si vous pensez à maison secondaire réquisitionnée à de pauvres retraités pour faire une rave party, vous êtes au bon endroit aussi, mais tendez un peu l'oreille car ce qui va suivre risque de vous ébranler un peu.
Nous avons en plus des invités de marque pour en parler, car dans les studios de Prune, nous accueillons des membres de la Maison du Peuple et de la Base, deux hauts lieux du militantisme nantais pour les droits humains, la solidarité, le partage et la préservation de l'environnement. Salut à tous, je vous laisse vous présenter.
Ben, Anto de la Base, c'est la Base d'Action Sociale Écologiste, et merci pour ces présentations.
Bonjour Alice de la Maison du Peuple.
Bonjour Rens de la Maison du Peuple aussi.
Alors, on vous a invité aujourd'hui pour faire ensemble un exercice un peu particulier, l'arpentage d'un bouquin. Pour préparer cette émission, on a choisi un essai en lien avec notre thème, le squat, et on s'est partagé le livre en parts égales en le déchirant, dans le respect du papier bien sûr, et on est reparti chacune et chacun avec notre bout de livre sous le bras, pressé de le lire et de le restituer à l'antenne. Donc j'espère que jusqu'ici ça vous a plu, en tout cas j'ai hâte de découvrir le reste.
Pour aborder ce sujet comme on le voulait, on a choisi l'ouvrage « Politique du squat, scène de la vie d'un quartier populaire », une enquête de la sociologue Isabelle Coutant, qui a été publiée aux éditions La Dispute en l'an 2000. Isabelle Coutant s'est penchée sur la vie de son quartier et sur la relation ambiguë qui s'y joue entre les occupants et occupantes du squat voisin, les autorités et la population environnante. En zoomant sur cette situation locale, elle tire le fil d'une réflexion pratique loin des ministères et des préjugés hors sol des médias traditionnels qui dépolitisent à fond le sujet en réduisant l'ouverture de bâtiments à un acte de délinquance. Force est de constater que l'approche médiatique du sujet n'a pas beaucoup changé en un quart de siècle. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs et engagés comme Prune par exemple, n'est-ce pas ?
Tout à fait, Nora Lucet.
On va certainement utiliser les termes marginaux et établis au cours de l'émission, car c'est avec ces mots qu'Isabelle Coutant distingue les habitants et habitantes du quartier vivant en squat, les marginaux, et c'est eux qui y sont légalement établis, les locataires ou les propriétaires. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Lilia, je te laisse la parole pour lancer la restitution de cet ouvrage.
Alors, j'ai sillonné la première partie du livre, de la page 7 à la page 53, qui correspondent à l'introduction et aux deux premiers chapitres. L'introduction, c'était vraiment la plongée dans la méthode universitaire. L'autrice pose une série de questions pour cerner son sujet et son angle d'attaque. En l'occurrence, elle a étudié le squat qui s'est créé en face de chez elle, dans un quartier populaire du nord de Paris. Alors, petite remise en contexte avant de continuer, son étude date de 97 et 98, et le livre est paru en 2000. Autant dire que les quartiers nord de Paris ont beaucoup changé depuis. Et ça ne m'étonnerait pas que l'embourgeoisement qui commençait soit majoritaire aujourd'hui. Mais gardons espoir. À Nantes, la Maison du Peuple et la Base nous ont montré qu'on pouvait tout à fait squatter au milieu des quartiers bourgeois. On en parlera après. La richesse d'utiliser une approche sociologique pour parler du squat, c'est qu'elle va interroger chaque témoin ou actrice du sujet. Elle va chercher le point de vue des habitants et habitantes du quartier, des squatteurs et squatteuses, d'un élu municipal, d'une assistante sociale et du commissaire du coin. On y lit toutes les représentations, les fantasmes aussi, à propos du squat, qui font souvent le grand écart entre stigmatisation et misérabilisme. Alors, ma partie ne porte pas forcément que sur le squat, mais surtout sur la réception du squat et de l'état du quartier par ses habitants. Isabelle Coutant cherche à comprendre comment le squat s'est créé et pourquoi dans ce quartier. Et tout de suite, je vous donne la recette que son enquête met en lumière. Vous commencez par mettre un zeste de nouveaux propriétaires, plus aisés, qui s'installent dans un quartier en espérant le transformer rapidement pour le calquer sur leur mode de vie. À cela, vous ajoutez une once de préemption, donc de rachat d'immeubles et de lots par la ville de Paris, dans le cadre d'un grand projet urbanistique de modernisation. Vous faites monter en neige des revirements économiques et politiques qui ont finalement arrêté ces projets, et vous vous retrouvez avec ces immeubles achetés par la mairie laissés à l'abandon. Servez, c'est squatter. L'autrice analyse cette situation comme un double processus d'embourgeoisement et de précarisation. Et quand deux mondes s'entrechoquent, ça crée des tensions, notamment avec la peur du déclassement des populations déjà présentes. Là, dans le livre, on a tour à tour la parole des propriétaires des classes moyennes et supérieures, qui crient à la zone de non-droit et à l'abandon par les pouvoirs publics, et aussi la parole des jeunes du quartier qui se sentent stigmatisés, délaissés, et veulent être écoutés par les élus pour que des espaces leur soient dédiés et qu'ils puissent s'épanouir. Donc pour les jeunes, cependant, le problème, ce ne sont pas les squats. Ils n'ont d'ailleurs pas l'air de faire la différence entre squatteurs et habitants locataires ou propriétaires. Ils ont une vision plus collective que la bande de tontons de droite citée plus haut. Mais à votre avis dans tout ça, qui va être plus écouté? Je vous le donne en mille, ce sont ceux qui ont les atouts financiers, de réseau et de classe sociale, j'ai nommé les tontons de droite. Ils ont même créé une asso de quartier, l'ACV, pour améliorer notre cadre de vie.
Ah ouais, genre une sorte de voisin vigilant, quoi.
Exactement. Et ils ont alerté la presse et les pouvoirs publics pour faire bouger les lignes en leur faveur. Mais dans ce « nous », autant vous dire que ça manque d'inclusivité. Les membres de l'asso ne sont pas vraiment représentatifs de la population du quartier, surtout au bureau de l'asso qui ne compte que des proprios ingés, blancs et bourgeois. Ils en profitent pour réécrire l'histoire du quartier dans une gazette locale, pour construire une identité de toutes pièces, à base de charmantes petites boutiques de ficelles ou de crémiers. On s'attend presque à lire qu'il y avait un super tireur de chaussures de moins de 12 ans qui n'avait pas son égal pour rendre vos souliers comme neufs. Ils font donc remonter les problèmes sous leur prisme. Il n'est pas question dans leur discours d'améliorer les conditions de vie des squatteurs, squatteuses ou des jeunes du quartier. Non, si ces populations pouvaient se retrouver de l'autre côté du périph', ça leur irait mieux. Dans ce livre, on a donc un zoom sur une situation donnée et sur les personnes qui gravitent autour, sans pour autant proposer une approche plus globale. Et c'est ce qui m'a manqué. J'aurais voulu davantage y lire une remise en question du système qui crée cette précarité, la question du logement, l'histoire des luttes pour un logement digne pour tous. Parce que, au-delà de ce livre, la question du squat, elle est assez brûlante en ce moment, avec la loi anti-squat qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 2 décembre dernier. Il y a un énorme fossé sur le traitement politique du squat entre l'époque de l'enquête en 98 et aujourd'hui. En 98, on est un peu dans une période faste du squat. Non, c'est pas vrai, c'était juste moins pire. La loi du 29 juillet 98, relative à la lutte contre les exclusions, prévoit un nouveau droit de réquisition des logements vacants. Ça, c'était le bon temps du droit au logement. Aujourd'hui, la loi adoptée, elle élargit la notion de domicile aux logements vacants et vides pour interdire leur réquisition. Donc là, on parle de locaux à l'abandon, de hangars, de granges, de bureaux désaffectés. Je vous conseille d'aller lire la tribune du directeur d'études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue, dans Alternatives économiques. C'est hyper instructif. Donc évidemment, ça pose la question des conséquences pour les gens qui vont se retrouver à la rue. Avec des milliers d'expulsions par an, où vont-ils? Le 115, qui est le numéro d'urgence pour obtenir une place dans un hébergement d'urgence temporaire, est complètement engorgé. Les agents ne répondent plus au téléphone et les places sont devenues aussi rares que du caviar dans un menu étudiant. Donc, création d'encore plus de précarité, et si on grossit encore le trait, d'expulsés qui vont devenir de nouveaux squatteurs. À ce stade, je pense que le député Kasbarian qui a proposé cette loi est en réalité un agent anarchiste infiltré qui est contre la propriété et qu'on va retrouver à la maison du peuple à gueuler « Un toit pour tous, mort au capital !» Là-dessus, Alice, je te laisse prendre la suite pour nous expliquer la différence entre bon et mauvais squatteur.
Alors oui, ma partie, du coup, ça mettait plus en lumière du coup ce qui était un bon ou un mauvais squat. Ce qui finalement, personnellement, moi, ça m'a rappelé un peu mon expérience face à ça et ma découverte quand j'étais jeune de plutôt des réunions entre amis, sans règles et pas mal un peu tout plein de choses festives qui s'y passent sans vraiment aucune règle. Là, je pense que c'était ma première expérience et après ma découverte de la Maison du Peuple et ce côté beaucoup plus cadré dans un intérêt finalement collectif au sein d'une réquisition. Du coup, finalement, l'auteur, elle arrive du coup, dans un petit quartier et ils sont tout plein de squatteurs, plein de familles. Elle commence du coup ce côté choc culturel avec eux, où du coup, finalement, eux, ils la prennent un peu comme une assistante sociale. Donc, il y a ce côté, finalement, dès le départ, elle arrive et elle reçoit plein de bonnes images de finalement ce que c'est de vivre ici, des parents super attentionnés à leur enfant, peut-être par peur que ce soit la DAS dissimulée en cette femme qui finalement pose plein de questions. Peut-être qui est mal vu aussi, parce que finalement, il y a tout ce milieu-là assez précaire qui, finalement, elle met en relief aussi ce côté de... Il y en a beaucoup qui sont entre la honte et la fierté de ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils se projettent, finalement, dans l'avenir. Et du coup, il y en a une, principalement, qui s'appelle Yasmina, dans le livre, qui, justement, elle est très fière devant les assistantes sociales de dire sa situation pour, finalement, essayer de bénéficier de certaines aides, des allocations et tout ça. Par contre, à contrebalancer de ça, ses anciens proches qui l'ont connue avec une situation stable, un confort adéquat, un travail, tout ça, elle a vraiment honte, finalement, de pouvoir faire partager son quotidien, alors que, finalement, elle y vit au quotidien. Et ces personnes-là l'estiment aussi, pour autant, mais... Elle ne va pas pour autant montrer ce qu'elle en est devenue, même si pour l'instant ça la convient et qu'elle se dit que le squat est temporaire pour elle. Moi, de mon expérience, c'est, je peux comprendre qu'un squat ce soit temporaire si justement tu es une famille, tu viens d'arriver, tu n'as rien. On en a récupéré beaucoup qui finalement après ont trouvé une place ailleurs et finalement s'en sortent et arrivent à s'en sortir dans ce système-là. Nous, je pense, en tant que Maison du Peuple, il y a ce côté où on essaie de déconstruire justement cet avis que l'auteur a fait face, où finalement c'était vraiment temporaire dans la plupart des familles qu'elle a pu vivre. Nous, je crois qu'on essaye de remettre une image quand même de faire pratiquer la déréquisition, c'est parce que derrière il y a un besoin et que c'est pas seulement parce qu'on est en galère que finalement la connotation de salle, squat, tout ça doivent être mis en avant, alors que c'est possible d'y pallier, faire une organisation sur des poubelles, je pense que c'est possible à tous. Par contre, ce qui était compliqué, c'était l'organisation des papiers qui finalement, une mauvaise organisation, une mauvaise installation dans sa vie quotidienne, finalement, ça défavorise déjà aussi le côté fatigue, le côté pouvoir le lendemain se lever les pieds directement bien posés, bien propres, directement go aller au travail. Finalement, beaucoup sont finalement sous la fatigue et l'engouement finalement de cette vie assez instable qui finalement en fait je trouve fait une barrière entre les personnes qui pensent que les personnes qui ont le confort, qui se permettent de travailler tout ça ne peuvent pas comprendre leur situation. La vision de l'auteur du coup elle est intéressante au moment où justement il y a la prise de conscience de ce qu'elle interview, parce que du coup dès le départ il y a quand même ce côté image qui est mis en avant et c'est intéressant de voir que finalement personne veut vraiment parler des problèmes, personne n'a honte finalement de toutes ces choses qui finalement font peut-être pas partie du confort de tous les jours des personnes qui vivent on va dire normalement entre guillemets, parce que ce terme « normal » est peut-être un peu moins vu dans le côté alternatif. Mais il y a ce côté où finalement, petit à petit, quand elle commence à passer beaucoup de temps avec ces personnes qui finalement la voient d'un œil un peu suspect, pourquoi tu viens te mêler de nos vies, pourquoi tu viens nous poser ces questions-là, est-ce que tu vas nous enlever nos enfants, ce côté un peu suspect de vouloir graviter autour de ces vies un peu instables, finalement, l'arrive en fin de ce petit chapitre à arriver en fait, dans un cercle. Elle gagne un certain statut de confiance, finalement, et les gens commencent un peu à se livrer d'une certaine manière où elle apprend du coup que certains ont eu quand même des vies vraiment pas très faciles et finalement ils ont dû pallier à ça et plusieurs manières du coup d'y pallier en fonction des familles. Il y en a du coup qui vont les cacher directement, ils vont pas forcément les mettre en avant parce que pour eux c'est le passé et du fait que c'est difficile d'en parler, ils vont pas le mettre en avant tout court. Alors que d'autres finalement vont s'en servir comme force pour justement avancer d'une autre manière et dire que de par ce passé-là, j'ai pu évoluer encore mieux. Et du coup, à la fin de ce petit chapitre, on apprend justement que là, les gens du coup se prennent finalement d'affinité pour cette femme qui passe du temps, qui lui leur a donné aussi, je crois que elle les a quand même aidés matériellement, mais sans parler de ça, finalement, ça les a rapprochés et ce côté communauté lui a permis de se faire rendre compte qu'il faut aussi beaucoup de temps pour finalement découvrir toutes les facettes de ces personnes-là qui finalement galèrent tout le temps et que du coup, il faut pouvoir essayer de leur donner du temps pour au moins abaisser aussi tout ce paraître autour du fait qu'il faut avoir une certaine image, la connotation de normes sociales, qu'il faut pouvoir apparaître comme étant fort, étant bien dans ses baskets et bien nourri par la société. Alors du coup, selon moi, l'auteur a voulu faire transmettre entre le bon et mauvais squat finalement peut-être l'image qu'elle renvoie. Il y a le côté où pour elle, le bon squat, ce serait un endroit où du fait qu'il y a des familles, il y a quelque chose qui se met en œuvre pour un maintien d'intérêt collectif. Et dans ce cas-là, finalement, ce n'est pas une mauvaise influence qui soit d'un rayon de quartier ou mauvaise influence tout court, ou du coup la drogue pérenne ou serait mise en avant. Et finalement, je pense que c'est tout l'intérêt d'un squat, justement, d'éliminer tout plein de facteurs à risque, finalement, de notre implantation dans ce lieu-là, parce que l'image mise en avant finalement est la première chose qui est perçue quand tu rentres dans ces sphères-là et du coup je pense que tout est à notre intérêt aussi de pouvoir montrer qu'on est capable de se gérer sans forcément rentrer à fond dans les clous de la société mais en tout cas l'auteur je pense qu'elle a essayé de se mettre à fond dedans, peut-être déconstruire aussi ses principes de vie pour pouvoir essayer de se rapprocher aussi de ce qu'elle connaissait pas. Et c'était intéressant de voir de la façon dont elle a mis du temps, mais elle a fini par gagner son statut dans la communauté qu'elle a visitée.
Bah, du coup, je vais démarrer. Moi, j'avais récupéré le chapitre 3 et du coup, faute de bonne circulation des informations, je me suis retrouvé avec le chapitre 4 aussi, que Anto aurait dû lire, mais j'ai pas pu lui passer. Du coup, je vais commencer par le chapitre 3 qui parle, le titre c'est les associations. Qui parle vraiment de la rivalité entre les deux assos du quartier, c'est-à-dire ACV, l'association d'un voisin vigilant pour faire court,
c'est ça.
Qui défend des certaines valeurs. Et en fait, le message général du chapitre, c'est comment on passe d'une guerre sociale à une guerre raciale, en gros. Mais c'est un chapitre fort intéressant. J'avais pas la date du livre avant le début de l'émission, mais c'est un bon voyage 20 ans en arrière dans ma jeunesse. Et c'est un livre intéressant parce que ça décrit beaucoup le fossé qu'il y a entre les personnes qui ont le savoir, outre que les ressources financières, parce que les ressources financières c'est important, mais le savoir, c'est-à-dire le savoir c'est les personnes qui ont l'habitude de s'organiser de manière institutionnelle, parce que là, à travers l'exemple de là, c'est l'association des voisins vigilants qui, parmi les dirigeants, ont des juristes, ont des journalistes, ont des architectes, et s'organisent de la même façon que l'État, en pôle d'urbanisme, en pôle de sécurité, en tous ces pôles-là. Et c'est des manières de fonctionner qui sont identiques aux institutions contre lesquelles nous, on combat personnellement. Les autres associations, une autre association, là, en l'occurrence, Atourap, une association, la seule association du quartier qui essaie de défendre un peu les droits des jeunes à travers le rap, mais notamment l'app, en essayant d'avoir accès à un lieu pour qu'ils puissent se retrouver. Le point de crise, et tu vois le fossé entre des gens qui ont du mal à remplir une lettre, en fait, et qui, depuis un an, se retrouvent sans contact avec les institutions, parce que incapable de d'écrire une lettre correcte, et encore, je ne sais pas si c'est une lettre correcte, ou de se mettre d'accord sur, sur cette lettre, parce que les gens ont tendance à se rabaisser, et nous, on est confrontés à ce problème-là, nous, personnellement, depuis très longtemps, et c'est le côté où, ben, remplir un document et aller là les amener à une institution, c'est pas grand-chose pour certaines personnes, mais ça peut être une montagne pour beaucoup d'autres, j'en fais partie. Et c'est un décrochage qui est, que je pensais, moins général que ça, et qui, de ce chapitre, montre vraiment la généralisation de ce type de problématique dans les pauvres. Parce que, outre que les squatteurs, ce chapitre, il est beaucoup sur les gens. Moi, de ce que j'en ai ressenti, c'est sur la petite bourgeoisie contre les banlieues, plus que contre les squats. Les squats sont intégrés dans ce discours-là, mais c'est plus général. Il y a une volonté, tu vois à travers le chapitre que les gens qui organisent ça utilisent des techniques que nous-mêmes on utilise, et que tu vois que c'était les débuts il y a 20 ans, que l'association Voisins Vigilants organise des fêtes, organise des points de rencontre pour créer du réseau en fait. Juste créer du réseau, et grâce à ce réseau, ils apprennent à se connaître, ils arrivent à être plus efficaces et leurs paroles sont entendues. C'est à deux points en fait. Le fait d'organiser des actions, ça permet de visibiliser leur collectif par rapport aux élus, qui eux sont en décrochage complet de la situation de terrain, et qui, vu qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe, ils ne peuvent que se fier aux voix qui reviennent vers eux. Et la voix la plus importante qui revient vers eux, ça reste les voisins vigilants. Parce qu'en face, j'aime pas trop dire en face, mais dans le du côté des gens vraiment précaires, il n'y a pas d'organisation. Et ça ressort beaucoup dans ce chapitre. C'est, eux, ils sont écoutés, ils parlent. Et nous, non. Nous, on ne parle pas. Du coup, je pense que c'est une tendance qui s'est un peu, pas inversée, mais qui s'est un peu résorbée en 20 ans, qu'il y a beaucoup plus de paroles qui se libèrent. Mais ça n'empêche pas le fossé qu'il y a entre des gens qui... nous, on se retrouve dans cette problématique-là, typiquement en début d'année, là. On se retrouve à devoir répondre à un appel à projet. Tu vois, c'est des jeunes là, qui se retrouvent dans la même problématique que nous. En fait, il y a un terrain vague qui est utilisé par les enfants du quartier, qui, c'est le seul point de rencontre où les gens peuvent traîner, en fait. Et ce terrain vague, là, il y a un point de crispation entre construire un square demandé par les voisins vigilants et un terrain de foot. Où les jeunes puissent se rencontrer, puissent jouer, voilà. Et ce point de crispation-là, au final, ça, c'est les voisins vigilants qui remportent le truc, parce qu'eux, ils sont capables de monter des projets, papiers, cohérents, chiffrés, cadrés, qui en face, déjà, c'est pas dans nos habitudes et dans notre mode de fonctionnement. Vraiment, moi, ce qui va vraiment marquer dans ce livre, dans ce chapitre, c'est ça. Y a des petits points où tu montres l'importance de se créer du réseau, que tu vois, par exemple, les voisins vigilants qui ont créé du réseau et qui ce truc, c'est un peu l'effet qu'il y a eu avec la période Zemmour là, qui fait que maintenant on a des montées d'extrême droite un peu partout dans les rues, de groupuscules qui se sont vraiment, c'est à force de se rassembler autour d'une cause commune, et tu vois que ça a eu cet effet là vraiment dans le livre, que les voisins vigilants se renforcent et ça crée une petite caste complètement déconnectée du quartier, qui devient un peu les parrains du quartier. Quand tu as une cinquantaine de personnes qui dirigent le futur du quartier de 10 000 habitants, c'est problématique. Et c'était un chapitre vraiment très intéressant. Je pourrais en parler longtemps, mais je risque de prendre tout le temps. Et après, il y a ce côté-là aussi, ce que je tenais à parler, c'est il y a aussi un aspect là-dedans où tu as le découragement. Au fait, il y a cette partie-là où la population aussi, en fait. Tu te retrouves que dans l'association de voisins vigilants, tu as des gens du Parti communiste, tu as des gens qui font partie du DAL, qui font partie de tout ce genre de microcosme militant qu'on connaît, nous, de gauche, et qui, à titre personnel, se retrouvent dans ce genre d'association et qui laissent faire parce que c'est des petits propriétaires. Et que l'association est suffisamment floue dans ses statuts, dans ses revendications, pour que tout le monde s'y retrouve. Que c'est de la grosse manipulation. Et en face, tu te retrouves avec des gens de quartier qui ont du mal à s'organiser, ont du mal à remplir des papiers. Et quelqu'un qui porte le projet d'Atourap, l'association en l'occurrence, qui est une petite dame qui s'appelle Jenny, qui est une ancienne mannequin du milieu du showbiz, qui a été mariée à un homme riche qui est mort et qui vit dans une maison de riche juste à côté. et que tu vois le décrochage entre les gens qui, elle, est dégoûtée de la société de consommation et des gens qui n'ont, eux, pas accès à la société de consommation, qui, eux, veulent juste mieux vivre, en fait, qui sont pauvres et qui, ben, eux, oui, veulent des bâtiments neufs. Ils s'en foutent de conserver des graphes parce qu'en vrai, ils veulent juste bien vivre. Ouais, c'est chouette, les graphes, c'est chouette de donner vie à son quartier, même s'il est délabré. Mais en fait, c'est des gens qui veulent juste améliorer leurs conditions de vie, tandis que se retrouvent confrontés avec des gens qui, eux, sont dégoûtés de la société dans laquelle on vit. Et ça crée un schisme vraiment assez violent qui, au fur et à mesure du chapitre, se retrouve de plus en plus, qui arrive à la fin où ben, tu te retrouves à ce côté assez moralisateur. Des gens qui, ben, au final, tu te retrouves à vouloir, un peu comme les évangélistes du temps jadis, à vouloir éduquer les pauvres et qu'elle dit textuellement dans le livre qu'il faut leur apprendre le bien et le mal. Tu vois, et tu vois qu'il n'y a pas cette volonté de construire ensemble, mais il y a cette volonté d'éduquer les gens qui est un peu problématique pour moi. Et tu te retrouves, le découragement que ça crée, en fait, toute cette tension, tu vois, il y a l'art du paraître quand tu es de quelqu'un de quartier et que ben, tu ne sais pas faire de papier. La seule solution que tu as pour parler aux institutions, c'est de faire le beau, comme un singe. Alors les gens, ils font le beau. Et ça marche, dans certains cas. Parce que, aussi, le paraître dans une société dans laquelle on vit, ça marche. Et les problèmes que ça crée en tension, parce que des gens qui font le paraître, ils ne font pas le boulot sur le terrain.
Tu entends quoi par faire le beau ?
Faire le beau, ben, c'est paraître bien pour les institutions, en fait. Tu vois,
ah oui.
C'est être poli, être lisse, faire croire que tu fais des trucs dans le quartier, alors que c'est pas forcément le cas. Juste le paraître. Tu vois. Et le paraître, ça marche, même si des fois, il n'y a pas le fond. Tu vois. Et tu comprends que des gens qui, eux, essaient de monter le fond et qui n'y arrivent pas, enfin, tu comprends que cette différence de pouvoir et d'outils créer des problématiques en interne, ce qui fait beaucoup de tensions en interne et que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'en fait, ils essaient juste d'être écoutés et même chacun essaie de faire à sa manière et ça crée des tensions en interne. Et tu vois aussi la déception de fin. Tu vois, le chapitre, il finit par Jenny qui, à force de faire ça dans le quartier, devient un peu plus dégoûtée parce qu'au bout d'un mois, devient la cible de certains jeunes qui lui font quelques petites arnaques. Parce que c'est aussi ça le milieu de la pauvreté, et qu'au final, ben, tu te retrouves avec des discours de ben, elle se remet à aider que les jeunes, par exemple. Parce que ben, y en a qui sont. C'est trop tard pour eux. Il y a ce discours-là de moralisateur et de perte d'espoir qui est flagrant dans le livre, et du repli vers soi-même. Et que tu vois qu'au final, au début du livre et à la fin du chapitre, cette personne-là commence à tenir des propos équivalents aux voisins vigilants. Ouais, et c'est triste, tu vois des gens comme Ahmed, un autre gars du collectif, qui ben, au final allait tout laisser tomber lui aussi. Et au final, les gens se découragent, faute de résultats. Ça a décrit un clivage naissant il y a 20 ans et une fracture réelle d'aujourd'hui, quoi.
Ouais, trop intéressant. Ouais. D'ailleurs, ça introduit bien ma partie parce qu'au final, j'ai l'impression que son bouquin parle beaucoup de cette division que fait la société entre les bons squatteurs, les mauvais squatteurs, les bons pauvres, les mauvais pauvres, les bons exilés, les mauvais exilés. Moi, c'est ce que j'avais aussi pas mal dans ma partie. Parce que du coup, dans le dernier chapitre, elle dissèque les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les marginales et marginaux pour être acceptés, ou du moins tolérés par les établis, les habitants et les habitants du quartier qui sont installés légalement. Et par exemple, elle parle du parcours de Jamel et de sa famille qui sont squatteurs, qui sont exilés et sans papier. Et en fait, cette famille-là, Jamel notamment, il manœuvre entre les valeurs, les normes et les stéréotypes des établis dans leur quartier pour se trouver une place. Du coup, dans certaines relations, ça fonctionne parce qu'il maîtrise certains codes, comme avec Marcel par exemple. Je vais vous lire le petit dialogue qu'elle restitue. Du coup, Marcel nous dit « Lui, il est bien. Moi, un gars comme ça, il aurait ses papiers tout de suite. Pour survivre, il doit voler, il le dit. C'est un gars, il n'a pas de papiers, il a des gosses, il ne peut pas travailler, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Pourquoi il mérite ses papiers ? Parce qu'il est honnête, quand il voit tout ce qu'il voit. Il dit que c'est pas normal quand il voit des pauvres cons qui foutent la merde comme ça. Des délinquants, il est pour le respect des autres. » Du coup, là, on comprend que là, Jamel, il met en place une stratégie qui réussit auprès de Marcel parce qu'il maîtrise des normes qui sont celles de Marcel, qui semblent en tout cas s'y soumettre ou les partager. C'est un mec honnête, respectueux, qui est prêt à rendre service. Mais il y a d'autres contextes où là où il va beaucoup moins maîtriser ces normes-là et du coup pas pouvoir mettre en place ce que tu disais tout à l'heure sur le paraître carré pour bien s'intégrer, comme par exemple dans son rapport avec l'institution scolaire, comme du coup il a des enfants qui sont à l'école du quartier, lui et sa femme, ils passent pour de mauvais parents parce qu'ils ne signent pas le carnet de correspondance, par exemple. Mais en même temps, sa femme, elle ne sait ni lire le français, ni l'écrire. Mais ça, c'est pas pris en compte, quoi. On voit juste le fait qu'ils signent pas le carnet de correspondance. Il y a aussi le fait qu'ils sont pas présents pour accompagner les sorties scolaires. Et là, l'autrice parle de déviance par méconnaissance des normes. En gros, le moindre faux pas de la part de Jamel, s'emporter un peu contre un voisin, tutoyer l'instituteur de ses enfants, ça peut détruire tous ses efforts d'adaptation qu'il a fait précédemment. Parce qu'à partir du moment où tu es classé comme marginal par tes voisins, le moindre signe d'une potentielle déviance est scruté par ces derniers, voire attendu. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé pendant ma lecture. C'est ce fait-là, d'être une fois que tu as un comportement déviant, enfin qui est considéré déviant par les normes majoritaires, dès que tu fais un truc qui est un petit peu déviant, ça va l'amplifier. J'avais jamais mis de mot dessus, mais du coup, ça s'applique aussi à toutes les minorités et toutes les marginalités, je trouve, pas que au milieu du squat. Dès que tu présentes une caractéristique marginale, tous tes autres comportements vont être beaucoup plus rapidement stigmatisés. Par exemple, ça m'a fait penser aux fêtes de famille que vous avez certainement vécues dernièrement et qui est souvent un moment propice pour scruter la consommation d'alcool des uns et des autres. Et étonnamment, tonton chômeur qui se resserre un petit verre de Fraixénète, il sera bien vite soupçonné d'alcoolisme chronique, alors que tonton cadre chez Géodis, c'est un bon vivant qui a bien droit de se lâcher un peu de temps en temps. Là, il y a une stigmatisation qui est hyper rapide parce que tonton chômeur, il a déjà une caractéristique marginale. De manière générale, l'enquête socio d'Isabelle Coutan, elle part du cas concret des squats, mais je trouve que sa réflexion développée autour des stratégies d'adaptation et d'intégration des squatteurs et squatteuses se transpose finalement à toutes les autres formes d'oppression et de marginalité. Elle parle de stratégies d'accumulation de signes de conformité, par exemple. C'est une stratégie qu'on peut trouver, par exemple, auprès de femmes qui travailleraient dans un milieu traditionnellement masculin, qui doivent adopter des comportements calqués sur des stéréotypes virils pour réussir à se faire respecter. L'utilisation du terme stratégie est très révélateur de tout le travail et tous les efforts que les marginaux doivent déployer au quotidien, juste pour pouvoir vivre un peu tranquillement. Ça demande de la part de la personne en marge une attention accrue et une vigilance constante pour cerner les valeurs, les stéréotypes, les attentes du groupe dominant, pour pouvoir jongler avec tout ça et s'en sortir sans trop de dommages. Dans la conclusion, Isabelle Coutan distingue du côté des établis, donc les gens qui vivent légalement dans ce quartier, deux types de discours en réaction à la présence du squat. Il y a un discours qu'elle appelle le discours de stigmatisation et d'autre part le discours de compréhension. Les gens de droite et les gens de gauche, en somme. Le groupe des stigmatisants retrace l'évolution du quartier en termes de dégradation, comme les agréables militants d'Améliorons notre cadre de vie, que tu as renommé voisin vigilant, ou le commissaire de police aussi, dont tu parlais. Du côté de la team compréhension, cette déviance, elle est interprétée comme issue de causes externes aux individus marginalisés. Ces habitants-là sont plutôt empathiques. Leur vision du squat s'appuie sur une vision sociologique et psychologique pour mettre en évidence des circonstances atténuantes à la situation des marginaux. Ils se diront davantage sensibles au charme d'un quartier qu'ils présentent comme populaire et mélangé. Ce que je comprends de cette conclusion de notre ouvrage, c'est que la pérennité d'un squat dépend quasi exclusivement des systèmes de valeurs des habitants et habitantes et des agents de l'État qui gravitent autour du squat et d'à quel point les squatteurs sont en mesure de se calquer sur ces normes. Donc une situation bien précaire en somme. Donc comme tu disais Lilia, moi j'avais un peu les mêmes réserves, même si j'ai trouvé la lecture hyper intéressante et que ça m'a donné matière à réflexion sur tout un tas de sujets. Je suis un peu restée sur ma faim, parce qu'on s'attendait, enfin moi aussi je m'attendais à trouver plus de billes pour parler de sujets politiques comme la question du droit au logement, de l'accueil des exilés, de la propriété privée, des communs, tout ça. Mais il me semble qu'on va pouvoir développer ça ensemble, vu qu'on est entouré du gratin du Squat Game nantais. Mais avant de discuter de tout ça, on se fait une petite pause musicale avec Zazie et Rue de la Paix, bien sûr. Vous êtes sur Prune 92 FM.
Je vends mon moto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison.
C'est vraiment une belle chanson porteuse d'espoir. Heureusement qu'on a des artistes engagés en France. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel. Zazie, si tu nous écoutes, est-ce que tu pourrais nous envoyer un peu des 82 millions d'euros que tu as gagnés en 2022 pour financer la lutte ? Ça serait vraiment chic de ta part.
C'est oui. Quoi les élections régionales ?
J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Et voici le meilleur moment, le divin temps d'échange avec nos invités est venu. Pour les auditeuristes qui nous rejoignent en chemin, aujourd'hui on parle des squats et des lieux de lutte et on a arpenté le livre « Politique du squat » de la sociologue Isabelle Coutan. On est donc avec nos invités, Rens et Alice de la Maison du Peuple et Anto de la Base. La Base qui est également établie dans les mêmes locaux que la Maison du Peuple, la MDP pour les intimes. Donc la MDP et la Base forment un lieu d'auto-organisation des luttes et actions autour des questions sociales et un centre d'action climatique. Vous me direz ainsi si je m'interprète. Ce lieu donc, vous a été gracieusement prêté par la mairie depuis peu parce que vous êtes installé dans le bâtiment du quartier d'Albi depuis novembre. Et avant ça, vous étiez dans un ancien établissement scolaire du côté de la place Gralin, un bâtiment que vous aviez ouvert illégalement, donc plus communément appelé squat. Et ça vous permettait d'accueillir des personnes à la rue, isolées, des familles et des demandeurs et demandeuses d'asile.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y avait une soixantaine de personnes qui étaient mises à l'abri à la MDP avant l'expulsion en juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, vous en êtes où avec cette installation dans ce nouveau lieu, qui du coup n'est pas un squat pour le coup, hein, vu qu'il y a un accord avec la mairie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'articule la base et la maison du peuple ?
Moi, je vais surtout laisser un peu tout le monde parler. J'ai tendance à trop parler. mais je vais surtout parler sur un parti squat. Oui, nos anciens locaux, c'était un squat. Et aujourd'hui, la mairie nous met un bâtiment à disposition sur lequel on ne peut pas faire d'hébergement, mais qui nous permet d'être un lieu d'auto-organisation populaire, qui est une de nos fonctions prioritaires. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas qu'on fait toujours partie du monde du squat. Et d'ailleurs, nous, on vit en squat. Beaucoup de gens de la Maison du Peuple vivent en squat. On continue d'ouvrir des squats pour mettre des gens à l'abri parce que malheureusement, il n'y a pas de place suffisante d'hébergement pour tout le monde. Encore à l'heure actuelle, on a deux familles syriennes de 10 personnes qui dorment à la gare depuis quelques jours et qu'on va devoir prendre en charge incessamment sous peu parce que les autorités refusent de le faire. Du coup, on est toujours cette partie assez militante du squat qui nous tient à cœur. Et au fait aussi, c'est une nécessité, puisque ça nous tient à cœur, parce que ça peut être un mode de vie pour certaines personnes. Mais c'est surtout une nécessité pour la plus grande partie des gens. Voilà, après, pour ce qui est de l'articulation de Broussailles, parce qu'on est sur le site de Broussailles, à Doulon. Aujourd'hui, ça fait un mois qu'on lui donne vie, mais je pense que je vais donner la parole à Anto et à Alice pour qu'ils vous expliquent ça.
Bah moi je peux parler de la base parce que du coup donc ouais la thématique c'est le squat et a priori la base, donc la base c'est la base d'action sociale écologiste. C'est un projet qui existe dans plusieurs villes en France et qui a pas la même configuration suivant les territoires où c'est implanté. Par exemple, une des premières bases c'était à Paris, c'était à côté de République, dans un quartier bien, enfin plutôt pas mal. Et donc du coup en gros ils payaient 13 000 euros de loyer. C'est complètement différent du choix que nous on a fait quoi. Nous à Nantes en gros on a cherché à établir notre base. On était en lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que la Maison du Peuple à l'origine c'est aussi un groupe de Gilets jaunes qui est à l'origine de cette ouverture. Et donc du coup voilà, bon il y a plein de choses à dire, mais en gros nous quand on, donc à force de faire des réunions au sein de la MDP et de voir comment ça se passait là-bas, bah on a vu en fait, on a pu démystifier un peu ce que c'était, que enfin ce qu'on mettait derrière un peu le mot squat. Et en fait, on voit que bah, du coup, la MDP, c'est pas que de l'hébergement. Nous, on ne voulait pas à l'origine nous implanter à la MDP parce qu'on ne voulait pas prendre la place de personnes qui étaient hébergées. Mais en fait, par la force des choses, à force de plus en plus souvent à la MDP, de voir comment ça fonctionne et de voir que bah, en fait, y a pas que la partie hébergement, ça c'est un peu la face immergée de l'iceberg, mais en fait, il y a aussi tout le côté auto-organisation dont Rennes vient de parler. Bah, en fait, pour nous, c'était cohérent de nous implanter donc, dans ce collège qui faisait 12 000 m², qui était en plein centre-ville, qui était vide depuis presque 10 ans, enfin bon, j'exagère un peu, mais ça faisait 7-8 ans et que c'était vide. Donc en gros, 12 000 m² de locaux vides en plein centre-ville, ben, en fait, pour nous, ça a du sens de venir le réquisitionner quoi, et de dire, ben, en fait, on va lui donner une vie à ces locaux. Donc effectivement, on héberge des personnes qui sont en galère, mais pas que, en fait, on fait aussi autre chose, on réfléchit à un autre modèle, enfin, on expérimente toutes sortes de choses. En fait, on pourrait faire la liste de tout ce qu'on a fait au sein de la MDP, mais ce serait trop long, on n'aurait pas assez de temps. Mais en fait, ouais, voilà, on fait autre chose. Et dans un centre-ville qui est genre à misé par justement des boutiques, enfin, en gros c'est le temple de la consommation quoi, bah voilà, de faire une autre proposition, de proposer autre chose, pour nous c'était intéressant quoi. Et donc voilà, donc nous on arrive avec la base, donc la base encore une fois c'est un regroupement d'assos qui sont plutôt écolos, qui ont plutôt une étiquette bobo en vrai, faut le dire. Et en fait c'est intéressant de ramener un autre public dans ces squats, justement de faire en sorte que bah voilà, il y a d'autres gens qui viennent, que ce soit pas justement qu'on enlève un peu cette étiquette de misérabilisme qui est un peu scotché, et puis de montrer que bah, en fait ouais, il y a autre chose, il y a juste des personnes derrière tous ces gens qui sont là, et puis bah voilà, faire du vivre ensemble, c'est un mot qui a été pas mal récupéré par des politiques, mais en fait c'est vraiment ça quoi, c'est exactement ça quoi. En gros on essaye de montrer autre chose, alors avec nos défauts, nos qualités, ça marche pas tout le temps, enfin il y a plein de trucs qu'on essaye qui marchent pas, mais dans l'ensemble quand on fait le bilan et quand on regarde, enfin nous vraiment côté base en tout cas, on s'est pris une grosse claque parce que bah ça nous a un peu bougé quoi, enfin c'était pas une évidence de nous implanter au sein de la MDP, et au final bah ça s'est passé en pleine période en plus un peu compliqué avec la pandémie et les confinements à répétition, etc. Donc en fait c'était une vraie bouchée d'air pour plein de militants et de militantes, et bon bref, du coup voilà, c'était hyper cool.
Moi je veux juste rebondir sur un petit truc, sur des guerres de chiffres et de propagande, juste pour dire que bah, la Maison du Peuple en termes de chiffres, c'est 80 à 100 personnes hébergées en permanence pendant 2 ans, c'est plus de 1000 personnes hébergées sur 2 ans. Voilà un peu les chiffres de là. Et pour rebondir un peu aussi sur le chapitre, oui, l'hébergement, c'est une problématique qui est importante pour nous. Mais comme a dit Anto, nous, on vient du mouvement des Gilets jaunes. Et la problématique importante, et première, c'est la problématique qui ressort du chapitre des associations. C'est l'importance et la nécessité de monter une voix et un projet collectif pour donner la parole aux plus précaires. Et pas qu'aux plus précaires, à ceux qui n'ont pas de voix et qui ne sont pas entendus par les institutions et le reste de la population. Voilà.
Tu voulais dire un truc, Alice ?
Du coup, maintenant, on est recentralisable du coup, à Doulon. Du coup, c'est cool. Après l'expulsion il y a un an et cette année du coup, de négociations avec la mairie, ce qui nous a rapprochés du coup, avec la base, on a pu recréer une association ensemble, en plus de celle qu'on avait déjà, Soutien Maison du Peuple pour nous et la base pour eux. Et finalement, du coup, maintenant, on retourne un peu à ce qu'on faisait avant, le free shop, bibliothèque, distribution alimentaire, du coup, retrouvable directement dans le parc Brousset, à notre bâtiment. Donc n'hésitez pas à récupérer, déposer si vous le pouvez, dès que vous le voulez. En tout cas, nous, on est chaud à remettre un peu d'humain dans cette vie.
Ouais. Et peut-être pour mettre un peu de contexte sur le fait que bah, effectivement la mairie nous met à disposition des locaux, c'est le fruit d'un gros travail en fait. C'est un vrai bras de fer quoi. Depuis l'expulsion, nous on trouvait que la situation était injuste. On a du coup interpellé les élus pour qu'ils interviennent sur notre cas. En fait, on porte un projet qui est d'utilité publique. Derrière le squat aussi, il y a aussi une réalité qui est juste pragmatique. C'est que bah, en fait, quand tu es en squat, donc il y a différents types de squats. Il y a les squats habitation, il y a les squats du coup comme celui de la Maison du Peuple où pour le coup il y a vraiment une volonté politique, un truc qui se construit sur le temps avec des collectifs qui s'articulent. Et en fait, quand on est en squat, il y a toujours cette menace perpétuelle qui plane au-dessus de notre tête. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, on peut se faire virer, qu'en fait, à tout moment, à 5h du mat, il y a des fourgons de CRS qui peuvent débarquer et virer tout le monde, quoi. Et ça, c'est une réalité. Donc, en fait, quand on porte un projet politique, culturel, peu importe, outre le projet qu'on porte, il faut aussi s'organiser sur défendre le lieu qu'on habite, quoi. En fait, il faut faire des communiqués de presse, il faut aller rencontrer le propriétaire des lieux. En l'occurrence, nous, c'était l'église qui était propriétaire, donc on a fait ce qu'on a pu pour aller leur parler, même si c'était compliqué. Faut aller rencontrer les élus. Enfin bref, il y a tout un autre travail qui fait que du coup on n'a pas le temps de s'occuper vraiment du fond de notre projet et on défend plus notre lieu quoi. Et donc depuis l'expulsion, cette réalité elle nous est arrivée aussi en pleine face quoi. On a réoccupé temporairement ces mêmes locaux il y a un an tout pile juste avant l'été 2021. D'ailleurs le procès c'est pour bientôt, on va en parler juste après. Et donc en fait voilà, donc en gros on peut pas, c'est pour nous il y a une réalité concrète qui est que en fait on a besoin quand même de lieux où on peut pérenniser notre activité et nous organiser de façon sereine quoi, où on peut vraiment se focus sur ce qu'on a envie de porter quoi. Et c'est aussi pour ça que du coup on teste cette collaboration avec la mairie. On sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Là aussi, ça a ses avantages et ses inconvénients. On fera le bilan, je pense. Déjà, là, on va avoir une AG bientôt. On va pouvoir déjà faire un premier bilan des premiers mois de collaboration avec la mairie. On fera le bilan au bout d'un an, parce que là, on a une convention qui court jusqu'à la fin de l'année. Et puis on va voir comment on va poursuivre sur la suite. Quoi. En fait, on essaye d'être... On avance un peu à tâtons. C'est un peu le truc.
Là, tu parlais du risque d'être expulsé quand vous ouvrez des squats. C'est quoi les retours de la mairie ou de la préfecture qu'il y a eu sur les différents, pas que la MDP, sur les différents squats qui ont été ouverts en général ?
La mairie, c'est que c'est pas de leur responsabilité et que ils feront, enfin la mairie nantaise en tout cas, parce que je peux pas parler au nom de toutes les mairies,
oui, mais
la mairie nantaise et que au maximum eux, ils font leur possible pour que ça se passe bien. Ça n'empêche pas que notre métropole a des bâtiments qui préfèrent mettre à disposition à des marchands de sommeil plutôt qu'à des assos. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle AVS qui fait de l'occupation de lieux vides, de la sécurisation de lieux vides par occupation. C'est-à-dire qui loue à des tarifs très bas à des logements à des précaires, des logements qui ne sont pas forcément en état, à des précaires, pour sécuriser les lieux au lieu que ce soit squatté. Et la mairie, sur certains petits domaines, je dirais pas la mairie, mais notre métropole en l'occurrence, parce que je sais que quelques bâtiments de notre métropole sont dans ce cas, ou complètement fermés. La mairie ne fait pas quand même le pas pour mettre à disposition ces bâtiments à ceux qui pourraient les utiliser de manière convenable, et préfère quand même soit les murer ou les mettre à disposition d'assauts un peu plus sécuritaires plutôt que sociales. Après, pour ce qui est de la préfecture... Nous, la préfecture, elle ne nous parle pas, et très rarement. Et que, en général, juste déjà d'une parce qu'on est squatteur. Après, nous, vu notre possible de gilets jaunes, on a un rapport très conflictuel avec la préfecture depuis très longtemps. On a été longtemps considérés comme des dangereux terroristes. On montre de plus en plus qu'on ne l'est pas, mais voilà. Après, pour ce qui est du procès du 23, je me permets de rebondir là-dessus aussi. Le procès du 23, c'est... Pour moi, un des pires procès que j'ai fait, parce que c'est un procès qu'on a fait, qu'on a pour la réoccupation d'un bâtiment appartenant au diocèse, enfin appartenant à une branche du diocèse, parce que ils arrivent à bien sectoriser tout ça pour éviter les problèmes. Et au final, aujourd'hui, sur la vingtaine de personnes qui étaient dans le bâtiment pour la période de Noël, seules celles sans domicile passent au tribunal et sont accusées d'occupation d'un lieu en vue d'en faire son domicile. Et ça, c'est de la criminalisation de la pauvreté, encore. Ce qu'on a essayé de rappeler à l'évêque pour le jour de Noël, il n'y a pas très longtemps. sans bon succès timing. Pour l'instant. mais c'est vraiment ce genre de petit tact qui fait que c'est de plus en plus dur. Parce qu'aujourd'hui... aujourd'hui, pour une occupation de squat, on risque de... ça va, toi. Et je pense que sur le long terme, ça va être de plus en plus difficile. Mmh. Mais en vrai, ça va. C'est des amendes, c'est rarement des peines de prison. Mmh. Après, c'est sur le cumul. Moi, je me retrouve qu'au fil des ans, là, j'en ai ouvert pas mal de squats. Et qu'à chaque fois que je vais au tribunal, je commence un peu quand même à me dire « Bon, là, gros, ça fait beaucoup. » Je commence à avoir une vingtaine de squats ouverts, tu vois, ça commence à se cumuler. Et après, c'est des récidives, c'est tout ça qui fait peur. Et c'est ce genre de loi qui fait peur. Comme la loi, que j'ai oublié le nom, Kasparian ou je sais pas.
Ouais, Kasparian.
Ouais. Et que, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec Anto sur le fait que c'est bien de s'institutionnaliser. Moi, je suis assez anarchiste et j'aime bien mon monde du squat. Je pense aussi que les gens qui passent... tu vois, nous, on est un squat politique, on le revendique. Et que les gens qui passent à la porte d'un squat politique, ben, c'est déjà un pas de côté, comme dirait Jean-Yann. Et que ce pas de côté, ça permet de... Tu as déjà fait cet effort-là, ce qui fait que derrière, on peut discuter, ce qui fait que derrière, il se passe des choses. Ce qui n'est pas exactement la même dans un lieu officiel. Il y a moins cet acte militant. Le fait d'être dans un lieu réquisitionné, c'est un acte militant. Ce qui n'est pas forcément le même dans un lieu qu'on nous a prêté ou qu'on a loué, et tout ça. C'est d'autres problématiques. Mais malheureusement, on arrive à une époque où, moi je le répète depuis très longtemps, que le milieu du squat, on est en train de se faire... Le milieu de squat ou alternatif, tout court en fait, est en train de se faire attaquer de tous les côtés, qu'on est en train de mourir. Et que si on n'arrive pas à s'organiser comme eux, ils s'organisent, pour essayer de montrer qu'on est là, qu'on existe, on va gentiment disparaître et on va nous assassiner ou nous envoyer en très lointaine périphérie.
Alors que même les institutions, finalement, font appel à vous, parce que, par exemple, à Nantes, il y a plus de place d'hébergement. Et où les institutions vous disent, quand est-ce que vous ouvrez un nouveau squat, quoi. Enfin, c'est complètement hypocrite.
C'est pire que ça. Aujourd'hui, officiellement, on n'est pas reconnu d'utilité publique. Mais aujourd'hui moi, je suis le secrétaire de la Maison du Peuple. C'est moi qui réponds au téléphone. Aujourd'hui, il n'y a jamais de place au 115. La dernière solution sur laquelle les gens se tournent, c'est nous. Aujourd'hui, moi, j'ai toutes les assistantes sociales de Nantes qui ont notre numéro et qui nous appellent dès qu'ils ont une famille et qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'elles ne rentrent pas dans les clous, parce qu'il n'y a pas de place. Et on nous appelle tout le temps. Et en cette période hivernale, le téléphone, il sonne souvent. Et c'est lourd à porter. Nous, on est déjà dans une situation précaire. Alors, on fait ce qu'on peut, mais on demande à des précaires d'assumer la fonction de l'État. Et en vrai, c'est compliqué des fois de dire non à des gens. Ça nous met dans des situations vraiment humainement des fois compliquées. Mais pour l'instant, on tient toujours le bout et on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens.
Ah, moi, j'avais une petite question pour Alice, parce que tout à l'heure, dans la partie arpentée, tu as parlé un petit peu de ton parcours d'engagement dans le squat et de la différence que tu avais vue entre les premiers squats dans lesquels tu avais été, où il n'y avait pas trop de règles, et la différence avec la MDP, avec une auto-organisation avec plus de règles et tout. Et donc, je me demandais si tu pouvais un peu développer ces règles-là et comment est-ce que c'est auto-organisé, ce type de squat politique au quotidien.
Du coup, en termes d'expérience, franchement, moi, c'était franchement vraiment qu'en milieu d'amis. Donc, finalement, moi, je suivais les amis des amis qui me disaient qu'il y avait ci et que du coup, on y va. Et finalement, les seules organisations que du coup, je pouvais entrevoir dans les anciens squats que je connaissais, c'était par exemple aller chercher la récup des poubelles. Bah ça, par exemple, tous les soirs, ils y allaient, ils avaient des plannings dans la semaine, et en fonction, il y avait juste un petit groupe de trois qui allaient tel soir et tout ça. Donc ça, c'était un peu une petite partie où finalement, je les voyais s'organiser, mais dans une sphère de finalement récupérer dans les poubelles de tout ce qui est... tous les magasins finalement qui font pas d'invendu et qui les jettent. Et quand je suis arrivé par exemple à la Maison du Peuple, finalement il y avait ce côté beaucoup plus carré. Déjà, il n'y avait pas de drogue visible comme j'avais pu le voir, qui était complètement chill de ce que je connaissais. Il y avait quand même ce côté de attention, il y a des enfants, il y a l'accueil des familles. Du coup, chose que finalement moi c'était qu'en trop jeune, qu'on était juste en fait perdu dans notre adolescence à se droguer pour de la merde, quoi. Et finalement là, quand je suis arrivé à la Maison du Peuple, il y avait quand même ce côté de il y avait des adultes, une grande mixité. transgénérationnelle. Enfin, moi, je suis arrivée, on ne m'a pas forcément trop pris comme une gamine. Et pour autant, en fait, on m'a donné des responsabilités, chose qui, finalement, je crois qui m'a fait grandir. Et du coup, dans ce côté organisation, il y avait le côté d'intérêt commun. Chose que, finalement, dans les anciens squats, je n'avais pas forcément trop vu en avant. Enfin, il y avait ce côté chacun un peu pour sa pomme et on se débrouille tous ensemble dans le même endroit parce que c'est la galère. Alors que j'avais plus vu dans la maison du peuple ce côté d'intérêt commun que pour... Enfin, quand on mettait des familles ensemble, finalement, on faisait attention que déjà, il n'y ait pas d'hommes dans le côté des familles. Parce que du coup... Enfin, pour des femmes qui sont seules ou quoi que ce soit, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Ça reste un milieu précaire et finalement, il y a plein de déviants justement qu'on ne peut pas trop savoir, de gens qui ne vont pas forcément nous les livrer dès qu'on les rencontre. Et du coup, j'avais bien aimé quand même ce côté où il y avait quand même aussi il y avait un cercle de sécurité. Du coup, eux, ils pouvaient monter dans le côté des familles. Du coup, il y a quelque chose un peu ça pérennise un petit peu les liens qu'on se fait entre nous. Il y avait ce côté de récup alimentaire où finalement c'était pas dans une recherche dans les poubelles principalement, c'était vraiment du coup de la récup de date limite courte ou de, enfin, beaucoup plus côté associatif et beaucoup plus carré. Il y avait de l'administratif derrière à l'appui lors du corona les jeudis. Du coup, il devait y avoir les familles, enfin, les femmes enceintes et les enfants qui aillent se faire voir par les médecins pour justement montrer, enfin, voir, vérifier qu'ils sont pas malades pendant la pandémie. Et du coup, toute cette gestion-là, je pense que c'est un cumul qui fait que finalement, tu prends soin de ta petite communauté entre tes quatre murs. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant et peut-être continuer à exercer pour montrer justement qu'est-ce que ce serait du coup le bon d'un mauvais squat et comment on fait pour mettre l'intérêt commun vraiment en avant et non pas derrière l'individualité de chacun.
Ok, je pense que ça conclut bien et la boucle est bouclée. C'est très bien comme conclusion parce que malheureusement on arrive au bout du temps d'échange et c'était vachement cool. Toujours très dense ces émissions à chaque fois.
Ouais, j'avais encore plein de questions. Frustration.
On continuera en off, c'est pas grave. Et du coup, est-ce que non, c'est tout. Pour nous.
Ouais.
Et du coup, vous savez tout. Et puis, pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient se mettre en action, creuser, élargir le sujet ou vous rencontrer, est-ce que tout le monde peut venir à la Maison du Peuple et,
Oui.
Est-ce qu'il y a des horaires, des permanences
Pour l'instant, les horaires sont très fluctuables, mais on est sur une permanence fixe tous les jours de midi à 19h-20h. Ça, c'est tous les jours. N'hésitez pas à passer. Comme dirait notre petite phrase de propagande, la maison du peuple, c'est pas nous, la maison du peuple, c'est nous tous. N'hésitez pas à venir la faire vivre avec nous. Voilà. Ouais. Et aussi, on passe au tribunal le 23 janvier. N'hésitez pas à venir à notre rassemblement qui aura lieu à partir de 14h devant le tribunal.
Ouais. Voilà, et puis là, du coup, donc on est samedi. La prochaine réunion hebdomadaire, c'est le 12. Donc c'est jeudi prochain. Voilà. Donc à 18h30. Voilà, c'est la réunion hebdomadaire. En gros, si vous voulez. Venir prêter main forte, c'est le meilleur moment pour nous rejoindre, parce que en gros c'est la réunion où on explore un peu tous les chantiers qui sont actifs et voilà.
C'était le petit instant publicité. Et du coup, voilà maintenant le moment librairie et on va vous donner quelques petits refs supplémentaires pour creuser et élargir le sujet.
Où est le livre ?
À la bibliothèque.
Et la musique danse ?
À la discothèque.
Et les discothèques ?
C'est bébé.
Évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. La star de notre bibliothèque du jour, c'est un essentiel à toute bibliothèque anarchiste qui se respecte. J'ai nommé le squat de A à Z. C'est un guide pratique et juridique sur le sujet, rédigé par des squatteurs et des squatteuses, en libre accès sur infokiosque.net. Cependant, même s'il est régulièrement mis à jour, le guide ne prend pas, probablement pas encore les récentes mises à jour du droit prévu par la loi anti-squat de 2022.
Moi, pour la référence BD, c'est les vieux fourneaux, mais voilà, c'est pas un squat, c'est plus un lieu autogéré. C'est dans les vieux fourneaux, donc qui est une petite BD de vieille anard de gauche, il y a l'île de la tordue, qui est un squat, enfin plutôt un lieu autogéré, du coup, qui a été créé dans un hôtel particulier parisien, où la proprio habite et fait partie du collectif. Et donc c'est un collectif anard du 4e âge qui s'appelle Ni vieux ni maître qui a créé l'île de la tordue dans cet immeuble. Et dedans, il y a une famille exilée qui est hébergée, il y a un collectif d'artistes activistes, des hackers, des étudiants. Ils ont une bibliothèque gigantesque et ouverte et un potager sur le toit. Donc clairement, ça fait un peu penser à la maison du peuple nantaise. Et c'est le genre de lieu autogéré auquel pourrait ressembler un squat et qui a une dimension de lutte politique et de remise en question de l'ordre établi qui est assez chouette pour commencer. On a aussi dans notre librairie et s'ouvre enfin la Maison Close, l'histoire orale d'un squat au tournant du siècle, aux éditions Demain les Flammes. Donc c'est l'histoire orale du squat du Clan D à Toulouse, un ancien bordel occupé et transformé en lieu de vie collective et de construction politique. Bon, on vous avoue, on l'a pas lu, mais de ce qu'on nous a dit, c'est un récit très vivant, très organique, dans lequel on suit les protagonistes et leurs aventures dans un lieu d'exception de 1996 à 2006. Il y a aussi le podcast Avis de Tempête, épisode 6 des cités au squat, habitées Aubervilliers autrement. C'est un épisode du podcast de Désobéissance Écolo Paris qui est consacré au cas spécifique de la ville d'Aubervilliers, de la métropolisation de certains quartiers et des actions menées par les militants sur place, notamment le squat. Est-ce que de votre côté, vous aviez des petites refs à nous partager ?
On a été invité récemment par le droit au logement à voir un documentaire qui s'appelle Rosmerta. Sur un squat à Avignon, fait par les habitants pour héberger pas mal de familles à la rue. Et c'est un documentaire vachement humain et intéressant que je conseille à tout le monde. Après, nous, on est un peu plus de la bibliothèque de la rue. Alors, des squats, il y en a un peu partout. On vous conseille de sortir de chez vous et d'aller cogner à la porte du squat le plus proche et d'aller dire bonjour. Voilà.
S'achève ainsi notre épisode sur le squat. On avait trop hâte de parler de ce sujet et on n'a clairement pas été déçus. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs qui vous permettront de faire fermer sa gueule à votre vieille tantine réac. On se retrouve le mois prochain avec un sujet qu'on ne peut pas vous teaser parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Mais restez bien sûr 92 FM. Après nous, ce sera l'émission Coup de foudre. Et en attendant, on vous laisse avec le morceau Les jours qu'on aime de Samara Balouf. Et surtout, n'oubliez pas, la propriété, c'est le vol.